étonnante rencontre que toutes ces personnes font, étonnant témoignage, étonnante expérience de ce que vivent les gens dans ces trois lectures que nous venons d'entendre. Abraham, dans le livre de la Genèse, se retrouve entre ce soleil couchant et cette nuit commençante, dans une sorte de moment intermédiaire où rien n'est jamais fixé, où tout reste flou, où l'on reste dans un état d'intranquillité peut-être, de peur peut-être. Et on le sait, un certain nombre de personnes, au moment où le soleil se couche, sont inquiets, même encore aujourd'hui. Cet état-là, de ténèbres qui arrivent, ajouté à ce que Dieu demande à Abraham, lui fait finalement vivre un état de sommeil profond, nous dit-on. La traduction du mot venant de l'hébreu peut aussi se traduire par hibernation, c'est dire à quel point ce sommeil est profond. Cet état de sommeil que vit Abraham n'est pas inconnu de nos lectures bibliques. Peut-être pouvez-vous faire le lien avec ce fameux homme sorti de la glaise et qui est tombé dans un profond sommeil pour que Dieu puisse lui présenter la femme qui deviendra l'os de ses os, la chair de sa chair. Cet état de ténèbres dans lequel il est plongé lui fait pourtant vivre un état lumineux. Et c'est sans doute là le paradoxe. C'est un brasier fumant, une torche enflammée qui vient au milieu de la nuit. Et c'est là que Dieu parle. Voyez, comme il y a association entre ténèbres, lumière et parole de Dieu. Nous le savons en Église, un autre moment où nous vivons cela, c'est à chaque fois que nous nous réunissons et à chaque fois que nous vivons un sacrement. Lorsqu'il y a une parole, lorsqu'il y a un geste, à un moment précis, nous appelons ça un sacrement, signe et moyen, efficace, réalisé et manifestation du salut de Dieu au cœur de notre humanité. Abraham vit cette expérience comme la reconnaissance de Dieu devant sa foi. Il est donc de nouveau ajusté et Dieu lui rend justice et Dieu lui fait la promesse d'une terre. Ce que vit Abraham est peut-être déjà le prémisse de quelque chose qui nous rejoint, et sans doute le psalmiste, dans sa façon de prier, dans sa façon de recevoir la parole de Dieu, traduit déjà avec génie ce qui vient à notre rencontre. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. L'association entre la lumière et le fait que Dieu sauve vient s'ajouter, vient s'additionner à l'écoute de la parole de Dieu et à la contemplation de la face du Seigneur qui se présente. Génie, en tout cas l'inspiration du psalmiste, lui fait vivre cela. dans sa lettre aux Philippiens, Paul ne fait que reprendre ces grands textes de l'Écriture. Et lorsqu'il parle de la citoyenneté des cieux pour les chrétiens, il leur indique le fait que eux-mêmes sont désormais transformés, et le mot est faible, même dans la lecture. Le terme utilisé en grec voudrait plutôt dire performé, transfiguré, métamorphosé. C'est cela qui est le lot de celui qui se met à l'écoute de la parole de Dieu, qui reçoit son salut et qui contemple sa face. Et le signe que cela arrive pour chacun de nous est donné en prémisse dans ce magnifique texte de l'Évangile que nous venons d'entendre. C'est la fin du ministère de Jésus en Galilée. Désormais, il fera route vers Jérusalem. Ce texte se situe juste après la profession de foi de Pierre, juste après la première annonce de la passion de Jésus, et juste avant la deuxième annonce de la passion de Jésus. Vous avez remarqué, je ne sais pas s'il le dit, non, il ne le dit pas dans le texte que nous avons, mais dans l'Évangile, si vous prenez une Bible, on nous dit cela se passe 8 jours après. 8 jours après cette parole donnée par Pierre. Pour vous, qui suis-je ? Tu es le Christ, le Messie, le Fils du Dieu Sauveur. C'est au 8e jour que se réalise, aux yeux de quelques-uns, les plus intimes, en comité réduit, comme un rite d'initiation, se réalise cette manifestation de Jésus transfiguré, signe déjà de sa présence à l'éternité, manifestée au milieu des hommes. Signe et moyen réalisé, efficace, de ce Jésus qui vient donner sa vie pour chacun de nous. Il faut aller là-haut sur la montagne, prier, prendre le temps du silence, de l'éloignement du lot quotidien des activités. Se plonger dans cette prière jusqu'à en perdre la réalité quotidienne et se plonger dans un sommeil qui peu à peu nous entraîne. Et c'est là, dans ce demi-sommeil, dans cette demi-veille, que se réalise à leurs yeux l'incalculable présence de Jésus transfiguré, blanc, plus blanc que blanc, dans la traduction exacte on dirait brillant comme un éclair. Jésus apparaît brillant comme un éclair, et deux hommes parlent avec lui. C'est ce que les disciples voient, Moïse et Élie. Toute la première alliance, la Torah, les Nevi'im et les Ketuvim, c'est-à-dire les prophètes et les écrits, sont là au travers de ces deux personnages. Et ils s'entretiennent avec Jésus pour parler de son départ à Jérusalem. On sait, du coup, de quoi il parle. Les disciples sont là, à moitié effrayés, à moitié émerveillés, devant cette manifestation et cette ténèbre qui vient les envelopper à nouveau. Tiens donc, encore la ténèbre, ténèbre lumineuse, comme pour Abraham. Comme pour le peuple hébreu dans le désert quittant l'Égypte de servitude. Ils sont enveloppés de cette gloire. Cela veut dire que eux aussi sont rendus participants de ce qui se réalise. Eux aussi entendent cette parole qui vient des cieux. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Parce que celui qui écoute, c'est celui qui a un nom. C'est celui qui devient quelqu'un. Et même si la proposition de Pierre n'est pas ajustée à ce moment-là, elle reste le témoignage qu'ils sont bien participants et qu'ils ont envie de rester là. Pourquoi ? Pourquoi faut-il repartir ? Pourquoi faut-il redescendre de cette montagne où quelque chose se vit de lumineux et où finalement Pierre, Jacques et Jean sont rendus frères de Jésus ? C'est que cette fraternité-là, donnée par le Christ, cette fraternité-là, reçue comme un don, comme un cadeau de la part de Dieu, il faudra la manifester, la réaliser dans le monde entier. Pas tout de suite, il faudra attendre la résurrection, mais il faudra que ce qu'ils ont vécu là, que ce qu'ils ont réalisé là, se multiplie, se développe, se répercute au travers du monde pour devenir vraiment des semeurs de fraternité. Et vous avez derrière moi ce qui est écrit, semeurs de fraternité, et ces personnes qui ensemble font une ronde autour de cette plante semée et qui pousse après avoir germé. Jésus transfiguré, qui annonce déjà la résurrection, la vie qui ne finit pas, c'est déjà la lumière inscrite au cœur de nos vies qui nous illumine et qui se diffracte au travers de nous-mêmes pour tous ceux qui nous entourent. Nous en sommes les témoins, mais aussi les missionnaires. C'est nous, aujourd'hui, avec le Christ, par participation à son mystère, c'est nous, aujourd'hui, qui vivons et faisons vivre cette transfiguration, cette lumière au cœur du monde.